Vous écoutez Radio Panique.
Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes sur Radio Panique 105.4, bienvenue dans J-Boutique. Ah, Nathalie.
Ah. Bonsoir Aymeric, je disais. Ça va bien ce soir?
Un peu de musique comme d'habitude. Hein.
Bien sûr.
Alors, la Guinée aujourd'hui, et on enchaîne tout de suite avec un bon vieux morceau des années 70.
Yeah,
Voilà, la Guinée, j'en parlais avec un bon petit son des années 70. Et ben, la Guinée, ce sont des artistes évidemment comme Mori Kanté ou encore le Bembeya Jazz. C'était à l'époque, hein. Ils ont fait pas mal parler d'eux. Et ce qu'on écoute là, et ben, ce sont des enregistrements d'époque qui ont été réédités par le label Silart. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, Sékou Touré, le président, cherche à faire connaître vraiment la culture de son pays. Et il y a des orchestres, des ballets nationaux qui sont formés et une production, véritable production discographique guinéenne, chose vraiment à souligner, qui se réalise donc à cette époque. Ceci pour introduire notre émission d'aujourd'hui. Bien, bonsoir à tous, hein. Vous êtes dans Djibouti comme tous les mardis à la même heure évidemment sur Radio Panique. Et ben aujourd'hui notre émission, c'est un artiste, un grand
spécial.
Une émission spéciale comme beaucoup d'ailleurs, un artiste, un grand, un musicien, Mamadi Keïta. C'est un percussionniste, joueur de djembé. On a eu l'occasion, la chance de le rencontrer jeudi dernier. Et il est en tournée en Europe, en Belgique particulièrement, puisqu'il viendra faire deux concerts ici à Bruxelles, à la Salle Monnière, dans une dizaine de jours. Donc voilà, on vous présente aujourd'hui quelques extraits de cette interview, agrémentée évidemment de musique, n'est-ce pas Nathalie, de la bonne musique de Guinée.
C'est parti.
Pays mandingue.
À fond.
Voilà le premier extrait que l'on va écouter de Mamadi Keïta. Eh bien, il va nous parler de quoi ? Eh bien, du djembé, cet instrument qu'on a vu se répandre aussi facilement un peu partout en Europe ces dernières années. Bon, c'est pas pour rien, évidemment. Il y a des écoles de percussion qui se sont ouvertes, notamment par Mamadi, un petit peu partout dans le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est un instrument qui a été adopté. Alors, qu'est-ce que le djembé là-bas en Afrique, à la base ? Eh bien, c'est ça qu'on va écouter avec Mamadi Keïta aujourd'hui.
Le djembé, c'est le symbole de la joie dans le mandingue. Et il est aussi un instrument qui interprète toutes les situations sociaux et traditionnelles, ainsi de suite, puisque le djembé, il accompagne la danse, c'est-à-dire qu'il accompagne les cérémonies. Par exemple, les cérémonies de mariage, cérémonies de la séduction, cérémonies, par exemple, pleine lune, il accompagne les cultivateurs, il accompagne les pêcheurs, il accompagne quand il y a la fête de circoncision, il accompagne les masques, il accompagne quand les étrangers arrivent dans un village. Le djembé, il est là pour les souhaiter la bienvenue. Tout ce qui est l'activité à travers le village et aussi dans la société du mandingue, le djembé, il est là. Tout ce qui est de la joie, quoi. Tout. La naissance, tout. Donc ça, c'est traditionnel. Et puis, on a utilisé le djembé aussi dans les ballets, c'est-à-dire le ballet national du pays, et aussi dans les ballets, même qui ne sont pas nationaux, mais dans les ballets privés, ainsi de suite, dans les ensembles instrumentaux. On utilise aujourd'hui aussi dans un groupe, des groupes de rock, groupes de jazz, groupes de reggae, tout. Le djembé, tu vois partout maintenant sur la planète. Donc, moi, ma vie, c'est le djembé. J'ai commencé à jouer le djembé. Je dormais avec mon petit djembé à l'âge de 2 ans. Donc, jusqu'à 7 ans, je me suis fait initier par un grand maître. Et aujourd'hui, bon, le djembé, pour moi, je passe derrière le djembé pour lancer tous les messages que j'ai à dire pour ce monde. Donc, le djembé, ce n'est pas seulement un instrument de musique, mais c'est un espoir. C'est un instrument d'informer tout ce qui est, n'est-ce pas, culturel, les fêtes, la tradition, tout.
Ouais, c'est ça en fait. Donc, parce qu'on dit, bon voilà, c'était pas un instrument d'accompagnement comme dans les ballets nationaux. Et ces choses-là, quoi. C'est là qu'il a été utilisé comme instrument d'accompagnement. Voilà. Mais en réalité, à la base, c'est pas ce qu'il est. Il est plutôt un instrument de parole, d'expression, comme vous le dites.
Oui, c'est-à-dire... Mais, bon, tout part de là. Hein. C'est-à-dire que chez nous, on ne joue pas le djembé pour jouer. On joue pour une situation. Par exemple, il y a la naissance. La naissance, il est accompagné... avec le djembé, c'est-à-dire que quand l'enfant est né, le 7e jour chez nous, c'est une grande fête, c'est là on va prononcer son prénom. Et ça, c'est une grande fête. On ne peut pas faire ces fêtes-là sans djembé. On ne peut pas faire une fête de mariage sans djembé. Tu ne peux pas faire la fête de pleine lune sans djembé. Tu ne peux pas accueillir les étrangers dans un village sans djembé. Donc, il est fait pour accompagner toutes ces cérémonies, toutes ces fêtes-là. Donc, et c'est pourquoi c'est une continuité de faire accompagner aussi les ballets, c'est-à-dire les ballets dansés, ou parfois l'ensemble instrumental, les ensembles instrumentaux. Mais aujourd'hui, le djembé aussi, on peut le faire que du spectacle, un spectacle du djembé accompagné par les dounous. Donc, c'est plus moderne. Hein. Donc, le djembé a pris une ampleur extra vaste pour le moment. Voilà.
Alors voilà, Mamadi Keïta, donc une petite introduction au djembé. Alors, on va écouter de la musique tout de suite avec évidemment des disques, pas mal de disques qui ont été produits par le label Fonti Musicali. Et c'est une chance. On va écouter un extrait de son disque Mandeng Jara, un disque enregistré en 2007. Et il souligne que ce disque a été enregistré à une période de crise politique en Guinée. Donc, ça les a fortifiés en plus de savoir qu'ils enregistraient pendant cette période-là. Alors le morceau qu'on va écouter s'appelle Sou, c'est un rythme qui est lié à la nuit et on parlera pas mal aujourd'hui de la nuit et surtout de la formation, parce que la formation de Mamadi Keïta, on va développer un petit peu ça avec lui, elle s'est en partie en tout cas passée pendant la nuit. Donc voilà, on écoute Sou qui est un rythme sou.
Sou pourquoi?
Sou, S-U.
D'accord, on se comprend. Thank you.
Voilà, Djibouti, à l'écoute de Sou Mamadi Keïta, un extrait d'un disque de 2007. On écoute la suite de l'interview avec Mamadi Keïta, où celui-ci répond à une question où justement je me disais, mais bon, la nuit, d'accord, mais ça veut dire quoi la nuit? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez pendant la nuit? Et alors les autres, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour dormir, sous-entendu? Voilà, question un peu basique et à laquelle Mamadi répond d'une façon tout à fait normal, vous allez voir.
Quand tu joues le djembé, ce sont des admiratrices, c'est eux qui viennent. C'est-à-dire, les gens, ils viennent pour la fête. Tu n'invites personne. Ça, d'abord, tu ne vas pas jouer pour jouer. Il y a quelque chose qui se passe, tu joues pour ça. Donc, forcément, il y a le monde. Donc, ce qui fait que tu verras aucune personne qui dira que tu me déranges parce que tu joues le djembé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors qu'en Occident, quand tu commences à jouer, les premiers clients qui arrivent, c'est la police. Il y a quelqu'un qui a téléphoné ce immeuble que tu fais le bruit et tout ça là. Au lieu d'y penser que tu es en train de jouer un instrument, il dit que tu fais le bruit. C'est idiot, quoi. C'est la folie. Donc, chez nous, c'est pas ça du tout. Tu commences à jouer, on sait tout de suite que c'est une fête qui est là et tout le monde vient.
Et même dans le cadre de votre initiation?
Dans mon cadre d'initiation, absolument. C'est-à-dire, l'initiation, c'est pas t'apprendre à jouer le djembé seulement. Hein. C'est-à-dire que...
C'est ouvert. Il y a d'autres gens qui peuvent
venir. L'initiation sur le djembé, dans le village, la vraie initiation, tu vas avec ton maître dans les fêtes. Il t'apprend rien, tu écoutes, tu regardes. Tu vois? Et tu fais comme lui, tu accompagnes, tu écoutes bien les dounous et tout. Donc, tu apprends comme ça. Alors, dans cette initiation, on t'enseigne. Le moment où on t'enseigne, là tu ne joues pas. On t'enseigne comme toi et moi. Je te le dis, bon, là, ce plante-là, vous allez d'ailleurs dans la brousse, il te montre les plantes qui soignent tes mains. Il te montre les plantes qui sont bonnes pour l'être humain. Il te montre les plantes qui ne sont pas bonnes pour l'être humain. Et puis, il te dit aussi certains signes. Quand vous êtes avec plusieurs djembéfolas ensemble et chacun veut être le premier, le meilleur, mais il y a des choses qui font aussi pour que toi, tu ne gagnes pas. C'est-à-dire qu'il te fait un exemple. Il y a des djembéfolas qui peuvent prendre un aiguille. Vous voyez, un aiguille. Il parle dessus et il dit un secret là-dessus, quoi. Et il parle ton nom dessus, il va planter sur un arbre. Quand il plante, tu as l'impression qu'on a planté dans tes doigts, chaque doigt a des aiguilles. Donc, quand tu frappes le djembé, tu ne peux pas. Donc, toi, tu démissionnes, tu rentres à la maison. Tu vois, donc, pour lui, celui qui a fait ça, il a moins d'ennemis, il a moins de concurrents. S'il fait ça 20 fois avec 20 djembéfolas, tout le monde rentre chez lui. Et celui qui aura en ce moment le succès, c'est lui, c'est le seul, il devient le meilleur. Mais pourtant, il n'est pas le meilleur. Mais par la méchanceté, il y en a qui font ça aussi. Donc tout ça, le maître, c'est-à-dire que pendant ton initiation, il te dit le secret de tout ça. Tu vois, il te dit tout ça, comment éviter tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est l'initiation, c'est pas seulement de jouer. Non, tu joues dans les fêtes. Ça, c'est normal. Mais les informations qu'il te donne, Ça, c'est autre chose.
Voilà. Ah, tout à fait. Donc, sur le 105.4 Radio Panique, Djibouti avec Mamadi Keïta. Et donc, il nous parle ici de sa formation. Question qui nous intéressait, évidemment. Alors, ça parle un petit peu de rivalité ici. Bon, on sait que le djembé est un art aussi d'expression des hommes aussi. Par moment, il y a un CD entier qui est consacré à cette danse des hommes, danse de résolution aussi parfois de conflits entre hommes dans les villages, des choses comme ça. Le mandingue était un empire aussi, donc on comprend. Voilà, c'est ça qu'il essaie d'expliquer ici, la fonction, le rôle du djembé au niveau social. Mais quant à lui, Mamadi Keïta, il est parti de son village pour apprendre dans les ballets, et puis il est arrivé en Belgique en 88. Il a fondé une école Tam Tam Mandingue en 91, et il a fait des disques pour faire connaître son groupe Sewakan, donc un groupe qu'il a fondé en Belgique. Après, il est retourné dans son village en 95, et ça faisait 26 ans qu'il n'était pas retourné dans son village. Il est retourné dans son village, il a retrouvé ses maîtres, disons ses compagnons et ses maîtres de l'époque où il a eu sa formation. Comme vous l'avez entendu, il a commencé très petit, donc il a été formé très petit, quoi. Et là, en 95, il retrouve ses maîtres, et il sort un disque avec le même label, Fonti Musicali. Ce disque s'intitule Mogobalu et il signifie les sages, les maîtres.
Avec ses maîtres.
Avec du moins un de ses maîtres de l'époque qui s'appelle Famoudou Konaté. Et on écoute ici cet extrait. Alors dans cet extrait, il y a un instrument qu'on n'entend pas toujours, pas souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et j'aime bien le son de cet instrument. C'est un bolone joué par Amadou Karama. Voilà, on écoute Sofa de Mamadi Keïta, le disque Mogobalu.
Yeah, what about?
105.4 Radio Panique à l'écoute de Mamadi Keïta, Sofa, de son disque Mogobalu. Une petite dédicace pour les habitants de la rue Égide de Wellskaerts à Saint-Gilles qui nous harcèle de SMS depuis quelques temps. Eh bien, nous vous donnons un simple conseil. Prenez votre djembé et révisez vos solos. Voilà, ça ne pourra vous faire que du bien. Je crois que Nathalie est du même avis.
Oui, tout à fait. Bon, en évitant toujours la police, on est d'accord. Mais...
On est d'accord. Voilà, on continue avec Mamadi et donc un petit mot sur sa formation. Voilà, quelle a été sa formation?
Mon histoire est un peu spéciale. Je suis à 5 ans, je jouais déjà dans les fêtes traditionnelles, avec le grand maître Djembé Fola du village. Mais à 7 ans, on a besoin, c'est une obligation à 7 ans. De te faire initier. Donc, l'initiation m'a pris 3 ans. Donc, cette initiation, c'est de te former. Qu'est-ce que c'est un djembé? Qui a créé un djembé? Pourquoi un djembé dans la société du mandingue? Quelle est la valeur du djembé dans la société du mandingue? Donc, on t'apprend tout ça là. On t'apprend aussi à connaître les plantes qui peut t'aider, c'est-à-dire par rapport à tes mains, par rapport à ton corps, pour te protéger et tout quoi. Et on t'apprend aussi à la mentalité des djembé fola, c'est-à-dire que le qu'on appelle ça les secrets que les djembé fola ont et pour éviter tes concurrents. Tout ça, ça s'apprend dans l'initiation. Et aussi, bon, mon maître, tellement qu'il m'aimait, qu'il a tellement confiance en moi, et il voyait que mon avenir allait être très grand, et il m'a passé ses sept secrets qu'il avait. Il avait passé ça à aucun élève. Je suis le seul à avoir ces sept secrets du djembé. Donc, j'étais un élève un peu spécial pour lui. Donc, ce qui fait, il y a ce stade-là, il y a ce formation que j'ai fait. Et après cette formation traditionnelle, j'ai fait la formation, ce qu'on appelle le ballet. C'est-à-dire que le petit ballet jusqu'au grand ballet. J'ai fait, ça c'est une formation artistique sur scène. Parce que la fête, chez nous, fête traditionnelle, il n'y a pas d'heure. Vous pouvez commencer, vous pouvez faire 10 heures de fête dans un mariage ou dans un baptême. Mais sur scène, c'est calculé, tout est calculé. Parce qu'il y a les chants, il n'y a pas que du djembé, il n'y a pas que du dounou, il n'y a pas que du balafon, il y a plein d'instruments. Et il y a aussi la chorégraphie de danse, tout ça qu'il faut respecter. Et on doit respecter ces 2 heures, ou c'est 1h30, ou c'est 45 minutes. Tout doit être respecté. Donc ça, c'est moderne. Et j'ai fait la formation de ça aussi. Donc, après ça, je me suis formé et je me suis beaucoup informé à travers les différentes ethnies. Parce que dans mon pays, il y a 21 ethnies et la 21 langues parlées. Donc, j'ai étudié les rythmes aussi qui viennent du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, du nord, sud, sud-est, sud-ouest, tout quoi. Et après, je suis sorti de mon pays pour apprendre aussi les rythmes qui sont d'autres ethnies, mais dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme la Sierra Leone, comme Liberia, ainsi de suite, ainsi de suite.
Na kuma kuma mendo goti sini kambo, goti sini kuma vo, goti sini kambo. Ah, mi ma kono solo, sabule wa.
Dama toba yafan dama.
Allah sa damura bata jinala,
bata jibi. Dama toba yafan dama.
Kwa zimba bibi bona baba kono, sabule la e.
Dama toba yafan dama.
Aku zukala cha jula bibi bibi killa, sabule la.
De la musique, vous avez enregistré beaucoup de disques chez Fonti Musicali.
Ouais.
Vous dites que dans les traditions, la danse est très importante. Alors c'est vrai, j'imagine que le djembé fola, celui qui fait le solo, c'est surtout le joueur de solo qui communique avec le danseur.
Absolument.
Je pense. Comment ça se passe dans un disque? Il y a un danseur?
Non. Un disque, c'est un disque. Un disque est un peu... Il y a des arrangements dedans. Par exemple, mes disques, je le fais... La base est de la tradition. Et dedans, je mets mes idées. Je fais des arrangements et tout ça. Là. Mais il n'y a aucune... C'est-à-dire que un maître djembé fola qui a appris le djembé, qui a été initié et tout ça là, et qui a fait toutes les fêtes de sa région. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps dans les fêtes. Il joue dans les fêtes. Même s'il n'y a pas de danse, quand ce djembé fola joue, qu'il est accompagné des dounous et les accompagnements du djembé, dans sa tête, quand il y joue, il voit la danse. C'est-à-dire, il voit les danseurs. Il croit qu'il est dans une fête. Donc, même s'il n'y a pas de danse, on a tellement l'habitude de jouer pour la danse que les phrases qu'on fait, ça colle les pas de danse. Et donc, c'est parfois les mêmes phrases qu'on fait, même sans danse, mais en improvisant, en mettant tes idées dedans, tes improvisations, tes créations, ainsi de suite. Voilà, donc, c'est tous mes disques là, il n'y a pas de. Sauf quand c'est live. Mm-hmm. Quand c'est live sur scène, là, oui, il y a la danse, mm-hmm. sans problème. Mais les autres, non.
Est-ce que vous faites des différences entre vos disques, par exemple ceux de Fonti Musicali, qui sont enregistrés, je crois, souvent sur place,
oui.
et d'autres qui sont enregistrés soit dans des concerts, soit je ne sais pas si vous avez déjà été dans des studios
Si.
Est-ce que vous faites une différence entre les disques? Est-ce qu'il y en a qui sont censés représenter, être une image de quelque chose, d'un style de musique traditionnel? D'autres où c'est vraiment fusion? Par exemple, le dernier, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un live, en fait, le dernier. Mais bon, il y a d'autres instruments. Il y a une flûte traversière qui rappelle peut-être un petit peu la flûte africaine.
C'est-à-dire, j'ai fait plusieurs disques, mais plusieurs endroits. Mon premier disque qui s'appelle Wasolum, je l'ai fait dans un studio. Donc, c'est plus calme le studio. C'est plus calme, Je n'aime pas trop de faire. C'est-à-dire, quand tu joues le djembé, tu vas rejouer toi-même, tu vas rejouer l'accompagnement toi-même, c'est-à-dire doubler quoi. Dans mes disques, je l'ai fait, je crois que deux disques je l'ai fait, parce que je l'ai fait dans un studio. Tout le reste de mon disque, j'ai fait en live. C'est-à-dire que tous les musiciens sur place, on joue en même temps les chansons et tout se fait en même temps. Et d'ailleurs, le studio se trouve chez moi. Ce n'est pas un studio, c'est dehors. Et les femmes, ils font la cuisine. Ils font la cuisine d'un côté nous on enregistre. Donc il y a tout à fait toute une ambiance. Ça c'est complètement différent d'un studio. On est là, on n'a pas les micros collés sur la tête et tout ça. Tout est fait en live, tu vois. Pas dans un cérémonie, hein. Bien organisé, on est sur place, chacun prend sa place, les chœurs, les leaders, les leads plutôt, et chacun a sa place, et puis on démarre. On fait un morceau, deux morceaux, comment ça s'est arrangé, tous les arrangements, et voilà quoi. Et alors, j'ai découvert vraiment l'ambiance de ça et studio, pour moi c'est complètement différent.
Voilà, Mamadi Keïta et ses disques, comment est-ce qu'il les enregistre, avec qui? Bon, on a déjà cité le label Fonti Musicali qui a quand même sorti un bon petit nombre. Hein. Alors, on félicite en tout cas Claude et Lou Flagel, je crois, je prononce bien, pour le travail qu'ils ont fait avec Mamadi Keïta. C'est assez impressionnant et quand on écoute Mamadi et qu'on voit un petit peu les disques qu'il a sortis, ben, je trouve que ça vaut la peine d'être souligné parce qu'il y a une certaine rigueur, disons, voilà, un sérieux dans le procédé, quoi, le fait d'enregistrer. Il accorde une importance à ça, il essaie de trouver vraiment la meilleure manière pour transmettre. Ça s'entend à l'écoute, on sent quelque chose de chouette, quoi, de vivant, évidemment. Et bon, c'est joué en live, donc voilà. C'est pas si étonnant. Hein.
Oui, je confirme. On sent que c'est vécu, que tu as l'impression d'être là avec eux, en fait.
Merci, Nathalie.
Écoute, bon. Je te vois, j'interviens.
Tu n'as pas écouté la fin de l'interview, là, mais il disait que les femmes cuisinent, en fait, pendant ce temps, mais tu es quand même avec eux.
Ok, ouais, je trouve que c'est un peu sectaire. Bah, y a même des femmes qui jouent au djembé. Hein.
Ah, ça, c'est clair. Dans son groupe, le groupe actuel. Il y en a. C'est un groupe fait en Belgique, donc il y a de tout, quoi. Il y a un peu tout type de gens.
Donc encore une fois, ça confirme qu'on puisse et jouer au djembé et faire la cuisine.
Tout à fait. Donc à propos de son dernier disque, puisque on a introduit le pied dans les disques, on a parlé des disques Fonti Musicali. Son dernier disque, lui, est un disque en live, qui s'intitule Akili, et ce sont des chansons jouées en live, prises dans différents concerts, jouées à droite à gauche. Il est déjà en tournée depuis un petit temps. Et il a comme particularité de, dans cette formule live justement, eh bien, il s'ouvre plus que dans les autres disques qu'on a écoutés. Il y a la participation du joueur de sax, flûte traversière, Manu Hermia, qui joue dans Slang, le groupe Slang, groupe belge, et pas mal d'autres musiciens, dont un joueur de kora aussi, puisque il l'a dit dans son interview, on n'a pas entendu, mais il l'a précisé, c'est vrai que la kora, bon, il y a des grands comme Mori Kante, hein, qui ont fait connaître la kora, c'est lui. Il a déjà joué avec Mori Kante, Mamadi. Et en fait, c'est un peu grâce à ça qu'il s'est lui-même ouvert. Parce qu'au début, bon, il était dans le djembé, il voulait faire connaître le djembé, quoi. Et le djembé, c'est déjà assez riche. Et donc, voilà, il n'avait pas forcément besoin de commencer à chercher des ponts avec d'autres instruments mélodiques. Mais donc, avec ce dernier disque, eh bien, il y a eu des prémices à couleur café avec Mori Kante. Mais dans ce disque, en tout cas, il y a un joueur de kora et il y a des très bons extraits de ce disque. Ce disque fête les 50 ans de la carrière de Mamadi Keïta, hein, je le précise. On va écouter un petit extrait donc qui s'intitule Akili.
C'est parti.
Thank you.
Extrait du dernier disque de Mamadi Keïta, Akili. C'était le morceau Bélé, Bélé. Et vous pouvez entendre cette formidable combinaison jouée en live, hein, évidemment, de percussions, de kora et de cuivre avec Manu Hermia. Voilà, c'est Djibouti aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin de l'émission et on va devoir se quitter. Sniff, sniff. Mais avant de se quitter, un dernier petit mot quand même de Mamadi sur, eh bien, sur Sékou Touré, ce président qui a lancé, qui a dit non à De Gaulle, qui a lancé aussi beaucoup de groupes sur guinéens, sur les chemins de la route vers des concerts en Europe et ailleurs. Un petit mot donc, que pensait Mamadi de Sékou Touré et pourquoi, puisqu'il faisait une chanson en hommage dans son dernier disque à Soun Diata Keïta, fondateur de l'Empire du Mandingue, pourquoi est-ce que il n'y avait rien sur Sékou Touré, ou est-ce que c'était imaginable? Alors voilà, il répond à ça et puis il dira un petit mot aussi pour Radio Panique.
Il a déjà fait l'hommage au président Sékou Touré, paix à son âme. Mais dans mon ensemble, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait, mais je crois que je l'ai tellement fait dans les ballets que à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai trop fait ça, ça suffit. Pendant 23 ans, on jouait pour ce monsieur et on lui rendait hommage parce qu'il a développé la culture guinéenne à travers le monde. Le premier ballet africain créé, il a été créé par un frère, Fodeba Keïta. C'est lui qui a créé le premier ballet africain. Donc, tout ça, c'était à son hommage. Vous voyez, et puis ces messieurs ont travaillé à l'hommage de Sékou Touré. Ils ont travaillé vraiment pour lui dire merci, pour dire vous êtes un homme qu'on doit rendre hommage parce que vous êtes l'homme, le seul qui a dit à Général de Gaulle, non, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus la colonisation. Nous voulons notre indépendance totale. Sékou Touré, il est le seul à dire au général de Gaulle. Donc, ce hommage, on le rend. Donc, on a rendu ce hommage pendant 23 ans. Donc, je me suis dit, ça va.
Ouais, puis il y a un moment aussi où vous avez cherché aussi à développer votre propre style et aussi s'affranchir peut-être d'une certaine mainmise sur la production culturelle, enfin une sorte de cadre aussi qui a été donné à ce moment-là par Sékou Touré.
Tout à fait, c'est-à-dire que Sékou Touré nous a formé idéologiquement, il nous a formé culturellement, il nous a formé vraiment notre comment il faut être indépendant. Et il nous a formé qu'il faut travailler pour son pays. Et il nous a formé aussi du respect. Tu vois, le respect de l'être humain. C'est-à-dire que, bon, on est éduqué comme ça. On n'a pas besoin de formation. Mais il nous a formé, n'est-ce pas, de le respect culturel. Ça, c'est hyper important. Et le président Sékou Touré, il nous a fait tourner dans le monde entier pour le représenter, représenter la culture guinéenne, représenter la civilisation guinéenne, représenter la tradition guinéenne. Il nous a donné cette possibilité. Le monde entier, on a fait. Voilà, donc cet homme, je ne l'ai pas rendu hommage encore dans mon groupe. Mais je l'ai fait pendant 23 ans, quand j'étais en Guinée. Voilà.
Ça va, c'était juste une question comme ça.
Merci. Mais oui, c'est bien.
Voilà, mais merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez faire un petit jingle pour Radio Panique, je ne sais pas.
Ben écoute.
Pour Djibouti.
juste pour dire merci Radio Panique. En tout cas, je suis arrivé au studio sans panique et j'ai bien monté les escaliers. Je me sentais un peu fatigué, mais bon, ça va. Mais ce que je voudrais vous dire ici, ça c'est des blagues, mais au sérieux, je voudrais vous dire merci. Pourquoi? Parce que les artistes, nous, on travaille dans l'obscurité. Vous voyez? On fait les grands spectacles, les gros travaux d'arrangement, de création, de tout dans l'obscurité. Mais c'est vous qui mettez la lumière sur nous pour que le monde nous voit qu'est-ce qu'on a fait dans l'obscurité. Alors, c'est pourquoi je tiens à remercier la Radio Panique et courage dans votre travail. Et je ne vous dirai pas merci, mais je vous dirai que Dieu vous donne longue vie pour continuer à mettre la lumière sur les artistes. Voilà.
Voilà, merci Mamadi pour toutes ces bonnes paroles. Merci d'être venu à Radio Panique. On annonce son concert. Ce sera les 24 et 25 novembre au Molière, porte de Namur. Allez voir sur le site de musique en flamand, public en français, .be. Et chère Nathalie, on va terminer l'émission ici sur le 105.4.
Oui, ça sent la fin.
Tout à fait, avec un petit morceau pour la route. Musique, évidemment, avec Natacha. Natacha Atlas qui sera en
pourquoi
concert.
Pourquoi ce choix?
Pourquoi le choix de ce morceau? Bien, le morceau est un morceau repris par... C'est une reprise de Nick Drake. Je ne sais pas si tu connais ce chanteur. Il a sorti quelques disques. Il a une très courte carrière. C'est un Anglais. Et il est... C'est un petit peu doux amer, comme ça, ses chansons. Et donc, on ne sait pas pourquoi Natacha Atlas
a fait une reprise.
Fait une reprise de Nick Drake, elle qui est plutôt dans les sons du Maghreb. Elle reprend Nick Drake. Et ça,
pour l'originalité,
ça ne choque personne, hein, je le précise.
Je ne connais pas.
Au contraire.
Donc on se quitte
On se quitte avec The Riverman de Nick Drake. Et nous, on se retrouve pour les auditeurs du 105.4 la semaine prochaine avec, je crois, une petite interview de Cheka, chanteur capverdien, si tout va bien.
Si tout va bien pour les interviews. Eh bien, à la semaine prochaine.
Tout à fait.
Bonne soirée.
Merci à toi. Summertime.
Impala, Diogo, Lena, Giovanna,
Impala,
Ouda,
elle est là,
Jawad,
Samir,
Jérémy,
oh.